J'ai de la joie d'être avec vous ce soir. J'aimerais déjà premièrement vous remercier de vos prières. Vous savez, aucun travail ne se fait sans la prière. C'est le moteur d'une église. Et on a tellement besoin de, au lieu d'agir par nos propres moyens, de vraiment élever nos yeux vers le Seigneur, dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Comment toi tu veux faire les choses ?» Et quand on commence à faire ça, eh bien les choses changent. Et Dieu agit parce qu'on est ouvert à ce que lui veut faire. Et je le remarque, donc, juste pour vous dire que je suis en Thaïlande déjà depuis, en plein temps, en mission déjà plus de 38 ans, donc une bonne partie de ma vie. Mais je peux vous dire que si j'avais à refaire, je le referais, parce que ça vaut la peine d'être là où Dieu nous veut. On n'a rien loupé, vous savez, des fois on se dit, mais oh non, si Dieu vous a appelé là où vous êtes, bien là où vous êtes, savez-vous que vous êtes à la meilleure place, parce qu'aucune autre place ne vous conviendra. Et c'est ce que Dieu a préparé pour nos vies. Et je bénis le Seigneur. Et j'étais une toute petite enfant quand Dieu m'a appelée pour être missionnaire un jour. Hein. Et c'est pour ça que je suis convaincue que Dieu parle aux enfants. Et juste pour vous donner une petite anecdote, dans le nord de la Thaïlande, à la frontière de la Birmanie, je m'occupe avec un jeune couple donc, que nous aidons, donc, avec des enfants dont les parents sont à vie en prison. Ils ont vu plein de choses, hein. Ils ont été abusés, maltraités, enfin il y a de tout, hein, donc même abus sexuels, il y a eu beaucoup de dégâts déjà dans leur vie. Quand on commence à leur parler du Seigneur Jésus et la lumière et la vie commencent à se mettre dans leur cœur, oh c'est beau. Et quand ils ont réalisé qu'ils ont un papa et que ce papa les écoute, répond à leurs prières, ça fait du bien. Quand vous avez des petits bouts de chou et vous savez comme ils ont été donc, beaucoup détruits, même mentalement, il y a du retard alors. Hein, ils n'arrivent plus à suivre à l'école parce qu'il y a des chocs émotionnels. Et alors on se moque d'eux, ils n'arrivent pas à suivre, ça devient très dur. Et ils ont compris que quand il y a un problème, on peut aller tout de suite vers le Seigneur. Est-ce que ça vous arrive quand vous avez un problème d'aller tout d'abord vers le Seigneur? Ou bien est-ce que vous allez d'abord essayer par vos propres moyens ou aller vers une personne? Ou est-ce que votre papa dans le ciel sera votre première ressource? Ça, c'est important. Et quand vous avez ces petits bouts de chou là, et puis il y en avait un, il était zéro carrément à l'école. Et un jour, il a dit, mais Seigneur Jésus, tu vois, j'essaye de faire des efforts, mais je ne comprends rien. J'essaie, mais j'arrive pas. Et il a commencé à prier, Et j'aimerais vous dire que ces enfants jeûnent tous les samedis et prient. Ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réalisé qu'il y a une puissance dans la prière, mais qu'il y a un prix aussi à payer. Ça ne va pas tout seul toujours. Il y a le jeûne des fois qui va avec. Et pour eux, vous savez, ce n'est pas toujours évident. Déjà, ils n'ont pas toujours beaucoup, mais le fait de jeûner et de dire, mais Seigneur, voilà. Et on va faire quelque chose, on va prier. Ils prient pour leurs parents qui sont en prison. Ils vont évangéliser tous les dimanches. Après le culte, l'après-midi, ils vont dans la montagne, alors qu'ils pourraient se reposer. Non, ils vont évangéliser, ils vont partager l'évangile. Ah, ça nous interpelle. Moi, ça m'a interpellé beaucoup, parce que des fois, je me dis, mais j'ai le droit d'avoir un petit moment de repos. Hein, on se dit des fois, c'est... Mais non, et là, ça ne veut pas dire qu'ils ne se reposent pas, hein, ne me mécomprenez pas, mais pour vous dire que tellement ils ont l'amour de Jésus dans leur cœur. Et quand vous êtes rempli de cet amour, vous n'avez qu'une chose, vous voulez le partager. Quand vous aimez quelqu'un et vous avez quelque chose, vous voulez le partager avec cette personne. Et c'est ce qu'ils ont compris, c'est de le partager. Et alors ce petit bout de chou, il a prié, il a dit, Seigneur, tu vois que je n'arrive pas. Et il a essayé, et puis bon, il a fait ce qu'il a pu. Et voilà que les examens arrivent. Et puis il passe aux examens. Puis tous les enfants, ils attendent, ils reçoivent les résultats, ils reçoivent l'enveloppe et devinez. Je crois que vous le savez déjà, puisque Dieu répond aux prières. Peut-être pas toujours comme nous on veut, hein, parce que des fois on croit qu'il doit agir comme ça. Mais Dieu a ses plans, a sa façon de faire les choses. Il a été le premier de sa classe. Vous vous rendez compte? De zéro au premier. Imaginez-vous quel encouragement. Parce que vous savez, ce sont des choses qui vont aider cet enfant à grandir dans la présence de Dieu, à réaliser que quand il a un problème, la première chose où il va courir, c'est vers Dieu. Ça va être son moteur. Parce qu'il a vu agir déjà petit. Enseigne l'enfant dans sa jeunesse et il ne s'en détournera pas dans sa vieillesse. Oh, il y aura peut-être des moments, parce qu'on en a tous, hein, c'est ce que je vais vous parler ce soir. Des moments où il y a des attaques, hein, où il nous faut combattre. Mais notre Dieu est avec nous. Et quand on voit tout ce qui se passe autour, et je suis française, hein, avec tout ce qui se passe ce soir, en France, mais savez-vous que les cieux ne sont pas choqués de ce qui se passe? Les anges ne sont pas choqués de ce qui se passe, parce que Dieu sait tout. Dieu nous demande de garder notre paix, notre foi en lui, et de croire qu'il a tout dans sa main. Et même s'il y a des moments difficiles qui vont arriver, mais moi je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ah, si on regarde toujours en bas, c'est vrai qu'on se sent, on voit du noir, on broie du noir, mais dès qu'on lève les yeux, on se dit, Seigneur, moi, je suis sans force. Moi, je ne peux rien. Mais toi, tu peux tout. Toi, tu peux tout. Et c'est, j'aimerais vous encourager ce soir, que vous sachiez que notre Dieu est grand. Et j'ai juste partagé un petit truc ce matin, mais je vais quand même vous le dire aussi. D'abord, j'ai hésité, mais je vais vous le dire. Vous savez, quand Moïse, c'est pour vous encourager. Parce que des fois, vous savez, dans une congrégation, il y a des mots qui touchent certaines personnes, un truc bien précis. Alors peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole. Hein, parce que notre Dieu est un bon Dieu, un grand Dieu. Il nous aime. Sa bienveillance durera toujours. Quel merveilleux Père, quand vous voyez que des gens vivent dans la crainte, même dans toute leur religion, ils essayent toujours de faire quelque chose pour plaire, alors que nous, on se dit, Seigneur, tout simplement, je viens à toi. Accepte-moi comme je suis. Pécheresse, avec mes manquements, mes besoins, mais mon Dieu, c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Il n'est pas mort pour le juste, il est mort pour le pécheur. Il est ressuscité. Amen. Il a vaincu. Quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, il est allé vers... il a parlé à Dieu et lui a dit, « Qui es-tu ? » Et Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. » Après, on aurait pu croire qu'il va dire « Je suis le Dieu d'Israël » parce que c'est le nouveau nom qu'il a donné à Jacob. Mais non, qu'est-ce qu'il dit? Parce que ce nom d'Israël, c'était la victoire, c'est quand il avait combattu, il avait gagné. Et Dieu aurait pu se glorifier dans ce nouveau nom qu'il lui a donné parce que c'était pour sa gloire. Mais non, qu'est-ce qu'il dit? « Je suis le Dieu de Jacob, le faible, le menteur. » Dieu est le Dieu de Jacob. Dieu est ton Dieu dans ta faiblesse, dans tes besoins, dans tes manquements, dans tes maladies, dans tes angoisses. Ça, c'est le Dieu. Ça, c'est le Dieu que nous servons. On n'a pas besoin de faire un show. Il nous demande juste, viens à moi tel que tu es. On connaît ce chant, hein? Viens à moi tel que je suis. Et c'est ça ce que Dieu veut nous dire ce soir. Viens à moi tel que tu es. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour me plaire. Donne-moi ton cœur. Dis oui. Le reste, le Saint-Esprit fera dans notre cœur. Amen. Et le Seigneur est tout-puissant. Alors nous allons passer un moment, j'espère, avec un rendez-vous avec le Seigneur ce soir. Parce que Dieu veut que quand nous sortons de cette porte, eh bien, vous savez, chaque fois que vous venez au culte, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Quand vous êtes rentré, des fois on a un poids, des fois il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la semaine, même dans la journée. Mais Dieu dit, je suis ton Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il veut faire une différence ce soir dans ta vie. Il voudrait que tu sortes et qu'il y ait un changement dans nos vies. Il veut nous donner tout ce que nous avons besoin pour aller combattre ce qu'il faut, jour après jour. Amen. Amen. Alors, la famille El Shaddai aussi vous dit, vous remercie donc pour vos prières et pour votre soutien, c'est vraiment une bénédiction. Et je travaille aussi beaucoup dans les camps de réfugiés, donc de Mehansong, donc du nord de la Thaïlande, jusqu'en bas. Et là, c'est des gens de la Birmanie qui ont été chassés, c'est des Karen qui ont été chassés de la Birmanie. Et je rentre avec une équipe médicale. Nous soignons à peu près 150 personnes par jour, physiquement d'abord. Et puis nous prions pour eux, parce que c'est les deux vont ensemble. Hein? On ne peut pas les dissocier. Et quand vous voyez avec tout ça, il y a des délivrances qui se manifestent, des gens qui se donnent au Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir qu'avec tout ce qu'on peut faire, ça paraît un grain, mais ce grain va faire la différence. Et si nous sommes fidèles les uns et les autres de ce que Dieu nous a donner. On l'a entendu ce matin avec les talents. Eh bien, c'est Dieu qui fera la multiplication. Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est juste d'obéir. C'est tout ce que j'ai besoin de faire, d'obéir et de faire ce qu'il me demande de faire. Le reste, c'est le Seigneur. Ce n'est pas à nous de le faire et c'est lui qui va multiplier. Alors, soyons bénis ce soir pour ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Amen. Amen. J'aimerais vous partager ce soir quelque chose qui tient vraiment à mon cœur et parce que je crois que c'est important, parce que je l'ai vécu moi-même dans ma vie. Parce que c'est des choses qui sont là tous les jours et qu'on doit réaliser pour pouvoir combattre le bon combat. Ce soir, j'aimerais vous parler comment reconnaître qu'on est sous une attaque spirituelle. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'il y a des forces, des choses qui viennent contre nous? Je n'ai pas dit posséder, hein? J'ai dit des attaques. Parce que des fois, on mélange, hein? Non, quand on est attaqué, quand on est oppressé, là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que vous commencez à réaliser que c'est comme si on vous squeeze, on vous presse et que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de choses qui tout d'un coup viennent et vous ne savez plus comment les gérer. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les esprits de ce monde et que l'ennemi est un vrai, vrai combat. Et vous savez, il aime bien être ignoré. Bien souvent, il aime être ignoré parce que justement, nous réalisons que nous nous laissons assaillir très facilement. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que de plus en plus, il y a des crises dans nos familles, il y a des crises parmi nos enfants. Et ça devient de plus en plus fort. Et ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est quelques points pour que vous réalisiez comment on va reconnaître, mais aussi ce que j'aimerais partager avec vous, comment vous allez apprendre à résister et à surmonter ces obstacles. Alors, on va commencer, parce que vous savez, il y a des signes, c'est des alarmes quand on est sous des attaques. C'est comme quand vous avez un problème de cœur. On vous dit déjà maintenant qu'il y a des signes avant que vous ayez une crise cardiaque, hein? Que vous reconnaissez certains symptômes, certaines alarmes, au lieu qui vont vous aider pour réaliser, au lieu d'avoir tout de suite un cœur ouvert et puis on va vous mettre toutes sortes de choses. Mais il y a des signes pour que avant qu'il y ait cette chose, qu'on va remettre un cœur nouveau, que vous pouvez combattre et être guéri. Alors ce soir, une des choses que j'aimerais vous partager, le premier point, un des premiers points qui vont vous démontrer qu'on est sous une attaque spirituelle, c'est que vous commencez à avoir un manque de désir de la parole de Dieu. C'est que votre appétit spirituel commence à baisser. Et ça, c'est un des premiers signes. C'est que ce désir devient de plus en plus petit et vous commencez à faire des choses avec duty. Ça devient un devoir. C'est vrai que de temps en temps, il faut nous booster, hein? Il faut qu'on se discipline un petit peu. Mais quand ça devient quelque chose de très fort, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui commence à se perdre. Le feu qu'il y avait en nous avant, ce désir intense de se plonger, cette relation avec le Seigneur, on commence à le perdre. Et ça, c'est un des signes. Et j'aimerais vous lire dans le psaume 42 qui dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Soupire après toi. Et quand ce soupir commence à baisser, on commence à être attiré par d'autres choses qui prennent plus d'ampleur dans notre vie. Et ce feu, c'est ce qui nous animait avant. On avait qu'est-ce qu'on aimait être dans la présence, ce désir, ce feu qui en nous nous prend. Mais si on commence à le perdre, ça veut dire danger. Tout de suite, vous savez, c'est des petites alarmes, mais bien souvent, on les passe très vite par-dessus parce qu'on se dit, oh, hein. Mais c'est une des armes qu'il nous faut veiller. Et l'ennemi, justement, essaye par tous les moyens de baisser cela en nous, ce désir, ce feu, cette envie d'être dans cette présence de Dieu. C'est un signe qu'il nous faut faire très, très attention. Le deuxième point que j'aimerais vous partager ce soir, c'est qu'on va être épuisé émotionnellement. Et dans Daniel, il est dit, et j'aimerais juste vous le lire, Daniel, chapitre 7, verset 25, Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Il essaye de nous opprimer, de nous fatiguer. Ça, c'est une des tactiques de l'ennemi, de nous, que nos efforts, il les zappe, il nous rend faibles et on a du mal à avancer. Ça, c'est une grande tactique. Et je crois que vous connaissez toute cette histoire d'Élisée. Vous connaissez son histoire. L'ennemi essaie par tous les moyens, quand on est devant une des plus grandes victoires, paf, ou une grande promotion. Jésus, alors qu'il était là, il a été baptisé, la colombe est descendue, voici mon fils bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tout de suite, il a été emmené dans le désert pour être tenté, le combat. Élie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a vaincu tous ces dieux de Baal. Et voilà qu'il était épuisé. Et il est parti, il a fui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endormi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un ange l'a réveillé. Viens, viens, assis-toi, je t'ai préparé à manger. L'ange lui a cuisiné un mets. Waouh! Ça, c'est incroyable. Il ne lui a pas dit, écoute, t'es fatigué, t'es en bas, il faut que tu ailles à l'église maintenant, il faut que les frères prient pour toi. Je ne me comprenais pas. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il faut d'abord que tu reprennes des forces. Dors, mange et reprends des forces. On a l'esprit, mais notre corps transporte cet esprit. Et si vous prenez mal soin de votre corps, ça a des effets sur votre esprit. Et cette histoire nous montre qu'en quelque sorte, Élie ne s'est pas bien nourri, puisqu'il était épuisé et qu'il ne mangeait pas, donc il était faible. Mais là, on voit combien Dieu comprend. Il lui a dit, lève-toi, mange. Et une chose incroyable, c'est qu'il s'est tout de suite recouché. Je ne sais pas si moi je me serais recouchée après qu'un ange m'ait nourri. Je ne sais pas si ça vous... Mais c'est quelque chose d'extraordinaire de voir cette histoire que, eh bien, Dieu connaît, Dieu nous a fait. Il connaît nos besoins. On n'est pas des supermen ou superwomen. Hein? Dieu connaît nos désirs, il connaît nos besoins. Et avec là, une chose tout à fait naturelle, il lui donne à manger. Il prend soin. Donc, il nous faut veiller de l'épuisement. Un burn-out, par exemple, justement, ça nous rend tellement faibles. Et j'en ai fait un, je vous assure, et je sais ce que c'est. Ce qui nous amène à une position, a lack of attack, c'est qu'on n'a plus de ressources pour attaquer. On n'a plus de ressources. Et ça devient grave. Ça devient très grave parce que quand on est dans la présence de Dieu, quand on est en alerte et tout ça, quand on puise notre relation dans le Seigneur, tout ça, Dieu nous parle, on est éveillé, on commence à reconnaître, et puis on commence à battre, et puis à battre contre. Mais quand on commence à perdre l'appétit spirituel, quand on commence à perdre physiquement notre énergie, quand on laisse la fatigue nous prendre, c'est très difficile de combattre ce qui vient, ce qui commence à se lancer devant nous. C'est très, très dur. Et c'est pour ça qu'il y a ces alertes. Et quand on est dans ces alertes, il faut se dire, oups, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Comment ça se fait que je n'ai pas tellement d'appétit spirituel en ce moment? Pourquoi est-ce que j'ai plus autant soif de lire la parole de Dieu, alors qu'on sait que la parole de Dieu est notre manne, est notre nourriture, et que si je ne la mange pas, si je ne mange pas cette nourriture, je deviens faible. Et l'ennemi peut zapper sur mes pieds facilement, puisque je n'ai plus de ressources pour combattre, puisque la fatigue m'a gagné. Ça, c'est très, très important. Et souvent, je viens à un autre point où il dit, vous connaissez, on se laisse conduire par les circonstances. Circonstances, c'est quoi? C'est un cercle. C'est que moi, je suis au milieu de ce cercle et que tout ce qui m'entoure commence à m'attaquer. Ça veut dire circonstances. C'est-à-dire qu'on se laisse diriger et influencer par les circonstances. Donc, on n'a plus le contrôle. On est au milieu et on laisse tout ça nous attaquer de tous les côtés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous savez, c'est là où ça vient. c'est que quand on est à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Nos yeux ne sont plus fixés vers Jésus. Et l'ennemi commence à gagner du terrain là, parce qu'on va être concentré sur tout ce qui est financier, tous nos besoins, tous nos manquements. Ça commence à tourner, hein? Et ça commence à nous affecter. C'est des alertes. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir, mais si on réfléchit bien, bien souvent, on se laisse glisser tout doucement là-dedans. Et comme je disais, le premier alerte, ce manque de désir, d'appétit, de la présence de Dieu dans nos vies. Un autre point où l'ennemi essaie de nous attaquer énormément, c'est la prière, le manque de prière. Vous savez, souvent on croit que la prière, c'est un don. Ça a été donné à certaines personnes. Ah oui, cette personne, elle s'est priée, il faut aller vers cette personne, elle s'est priée. Ce n'est pas un don, c'est une obligation. C'est une obligation. Si vous voulez survivre dans votre foi, dans votre vie spirituelle, il nous faut prier. Il nous faut prier. Et puis, chaque fois, je ne sais pas, je crois que vous avez fait des expériences, chaque fois que vous voulez dire maintenant, je vais prendre du temps hein, dans la prière, je vais fermer ma chambre, je vais prier, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne. Vous le mettez sur le vibreur. Brrr, il y a le bébé qui pleure. On frappe à votre porte. On se dit des fois, mais ce n'est pas possible. Hein? Parce que vous avez fait ce choix, parce que vous savez, l'ennemi sait très bien qu'il y a des victoires qui vont se faire le moment qu'on se met dans la prière. L'ennemi n'a pas tellement peur quand vous lisez la parole de Dieu. Elle est forte, c'est énorme, mais il a peur quand vous commencez à prier. Parce que la prière, c'est le bras rallongé de Dieu. Et là, il y a des changements qui se font dans nos vies. Parce que dans ces moments-là où on réalise combien on est petit, combien on est faible, combien on a besoin de la grâce de Dieu, combien je ne peux rien sans la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, quand Jésus, vous connaissez tous ce passage dans Matthieu 12, quand Jésus dit à ses trois, et surtout à Pierre, viens, retire-toi avec moi, on va prier. Jésus a prié, il revient, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous dormi. Il dormait trois fois. À la fin, il dit, maintenant, c'est l'heure. Mais il y a une chose qu'il dit, et j'aimerais vous lire ce passage dans Matthieu, justement, qui est très, très important, parce que la prière est une clé pour notre vie. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Ça, c'est tellement important. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et quand Jésus dit, l'heure est venue, et quand les soldats sont venus, quelle était la réaction de Pierre du fait qu'il n'a pas prié? Il a agi selon la chair. Il a pris son épée et il a coupé l'oreille du soldat. Quand on ne prie pas, quand on n'a pas une vie de prière, nous agissons selon la chair, mais pas dans l'esprit. Combien de fois on reprend nos frères et sœurs? Combien de fois on leur dit notre pensée, nos façons de faire? Ou on maudit même, on juge. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas passé du temps dans la prière. Parce que je vous assure que quand on passe du temps dans la prière, on se retient, on retient sa langue. On la retient, hein? On veille et on dit, Seigneur, quand est-ce que je peux dire quelque chose? Comment est-ce que je peux dire? Que faut-il faire? Parce que votre cœur saigne aussi pour la personne. Parce qu'on commence à voir les choses différemment. Mais c'est notre vie de prière qui va faire ce changement dans nos vies. Et si on ne l'a pas, je vous assure, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Notre vie de prière doit nous tenir. Et plus on prie, j'ai réalisé maintenant ces derniers temps, durant cette nouvelle année, beaucoup d'églises ont commencé à jeûner et à prier. Et je trouve que c'est bien. Parce qu'on dirait qu'il y a une alarme qui commence à se mettre. Et oui, il y a un prix à donner là aussi. Et il y a des églises où c'est une semaine, deux, trois jours, une semaine, mais j'en ai vu maintenant plusieurs, c'est 21 jours. 21 jours. Avec des jeunes. Moi, je me dis, waouh! Mais vous savez, il y a des changements dans leur vie. Dans leur vie. Parce qu'ils commencent à revenir au Seigneur. Ils ont réalisé qu'il y a des choses qu'ils ont laissées bien loin, qu'ils ont perdu des terrains, qu'ils ont perdu des années. Mais ça, le Seigneur peut nous montrer seulement quand on est dans cette communion avec lui. Parce que quand on commence à passer ces moments précieux avec lui, on commence à réaliser que Dieu ne nous juge pas, qu'il nous aime et qu'il veut quelque chose de formidable pour nos vies. Mais il nous faut qu'on soit libérés. Il faut revenir et aller chercher tout ce qu'on a perdu. Ça, c'est possible, vous savez. Ce qu'on a perdu, on peut aller le rechercher et reprendre la victoire dessus. Une des attaques les plus fortes, et je crois que c'est une des plus fortes que l'ennemi utilise, c'est qu'il va revenir sur des victoires du passé. Là où il avait, pendant un bon moment, de la victoire dans vos vies. Vous avez pris la victoire, mais quand on commence à avoir un manque de désir de la parole de Dieu, un manque de prière et tout ça, à être faible, on commence à ouvrir une porte. Et il est bien dit dans la Bible que l'ennemi va venir voir si la maison est vide. C'est dur, hein? Et si elle est vide, il va revenir avec 7 plus. Veillez, veillez. Des choses, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit any addiction, que ce soit, donc, toutes sortes, il va revenir dessus. Et surtout, la dernière, une des grandes victoires que vous avez eues dans votre vie en dernier, il reviendra dessus. Veillons, veillons. Il y a des clignotants, il y a des alertes que Dieu nous met sur notre route. Un autre point qui commence à nous prendre, c'est qu'on commence à éviter la famille de Dieu. On commence à aimer de nouveau être beaucoup plus avec les amis du monde. On se sent bien. On commence à... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des amis dans le monde. Hein. Il y a pas, non, je ne dis pas ça, mais qu'on est beaucoup plus attiré. Et on commence un peu à passer moins de temps avec la famille de Dieu. Ça, c'est un signe qui est dangereux, très dangereux. Parce qu'on se dit, mais oh, je me sens bien là. On commence à remettre des CD du vieux temps. Et on se dit, c'est super, ah, j'étais bien à ce moment-là et tout ça. Mais on oublie que c'est Jésus qui est venu nous chercher, que c'était la meilleure chose qui s'est passée dans notre vie quand Jésus nous a tendu la main et nous a sortis de toutes ces choses qui nous ont si facilement pris dans nos vies. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Ça, c'est tellement, tellement important. Il nous faut veiller, veiller à toutes ces alarmes. Combien nous avons besoin de jour après jour prendre du temps avec nos frères et sœurs, prier les uns pour les autres. Et c'est là où nous allons grandir. C'est là où nous allons grandir. Nous avons besoin de vraiment, vraiment revenir vers la source. Et souvent, on est submergé par tout ce qui nous entoure. On se laisse impressionner. Et je ne sais pas, des fois, il nous faut faire attention. C'est bien de regarder les nouvelles, hein. Mais si de temps en temps, ça prend trop d'emprise dans nos vies, nos cœurs commencent à voir comme les choses du monde, au lieu de voir comme Dieu les voit. Parce qu'on n'arrive plus alors à se contrôler. On commence à raisonner comme le monde. On commence à voir les choses comme le monde. C'est bien de voir, mais il faut faire la part des choses. Et des fois se dire, mais Seigneur, j'ai vu, mais il faut que je prie. Il faut que je prenne ce flambeau. Il faut que je sois fidèle là. Seigneur, rien n'est choquant pour toi. Rien n'est choquant pour toi. Tu es tout puissant et tu peux faire de grandes choses encore aujourd'hui. De grandes choses encore aujourd'hui. Et nous avons besoin de lui jour après jour. J'ai besoin de lui jour après jour. Et vous savez, quand on est dans le ministère, on est aussi faible, hein? On a aussi des manquements, on a aussi des besoins. Mais c'est vrai que Dieu nous demande d'être responsable. Mais au lieu des fois de critiquer, priez pour votre pasteur. Quand on commence à prier pour nos responsables, on commence à voir les choses différemment. Parce qu'on se dit des fois, mais moi je peux me permettre, hein? Je suis faible, je suis un manque. Non. On a besoin, chacun de nous est responsable. Je suis responsable de mon frère et de ma sœur. Je suis responsable de l'élever devant le trône de la grâce. J'ai besoin, et c'est là qu'on réalise. Vous voyez combien la prière est importante? Combien la prière est importante? Parce que tout de suite, on est en relation avec le Seigneur. J'ai besoin de lui jour après jour. J'ai besoin de sa grâce jour après jour. J'ai besoin de réagir comme Dieu réagit. pas comme moi je réagis. J'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin d'être avec lui dans sa présence, d'être renouvelé, d'avoir ce désir ardent. Ah, ça c'était quelques points justement pour vous dire, juste quelques alarmes qu'il vous faut veiller, de veiller. Et vous voyez, ce n'est pas compliqué. Et je crois qu'il y a des moments dans nos vies où on réalise où il y a des moments où le frigidaire ne va plus, l'air conditionné ne va plus, la voiture ne va plus, tout d'un seul coup. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, là, on réalise des fois que ce n'est pas normal, là. Ce n'est pas un truc, je ne dis pas qu'il faut voir Satan partout, ce n'est pas ça. Mais il y a des fois des choses comme ça, on se dit, mais ce n'est pas possible ce qui se passe dans cette journée. Parce que justement, l'ennemi essaye d'ôter vos regards sur Dieu. Et que vous soyez concentrés sur tout ce qui est là. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. Ça, c'est un signe. Ah non, 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 qu'est-ce qui ne va pas là? Ah non, vous savez, on peut être très pratique. Hein. Ce n'est pas besoin d'être très spirituel. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, 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 là, c'est trop, ça va trop loin là maintenant. On se dit, Jésus, tu es tout puissant. Tu es le vainqueur. Et je ne vais pas me laisser abattre par ces choses. Je ne vais pas laisser toutes ces circonstances venir. Et moi, je suis là au milieu, je ne sais plus quoi faire. C'est toi qui es au milieu. Et c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je prends mes ressources. C'est vers toi que je lève. Parce que tu es tout puissant. Alors, je vais vous donner juste un point, justement, qui est formidable. Qui est formidable. Et je trouve celui-là, il est merveilleux. Que Dieu nous a fait pour résister les tempêtes. Ah, Dieu nous a fait de telle manière que nous sommes faits pour n'importe quelle tempête qui vient contre nous, on est prêt. Il nous a armés, il nous a formés pour que nous puissions résister toutes ces tempêtes. Et c'est là où on vient dans l'histoire du fou qui construit sur le sable et du sage. Savez-vous que le fou, il a construit, il n'a même pas pensé à la tempête. Il a construit comme ça. Sans penser qu'il peut-être il y aurait une tempête. Alors que le sage, quand il a construit, il s'est dit, mais peut-être, si jamais il y a une tempête qui arrive, si jamais il y a l'ouragan, si jamais il y a du vent, si jamais il y a la mer qui vient, il faut que ma maison soit solide. Eh bien, c'est comme ça que Dieu nous a formés. C'est toutes les choses de la parole de Dieu, dans sa présence, dans la prière, qu'il nous forme, que nous devenons des bons soldats. Nous sommes préparés pour la tempête, peu importe, aussi grande qu'elle est, on est prêt. Mais à nous de nous préparer, hein. Il te donne à toi et à moi la clé de pouvoir nous préparer pour ça. Est-ce que je la prends cette clé? Est-ce que je me prépare? Parce que je vous assure qu'on ne va pas dans des jours faciles. On n'ira pas, ça va devenir même très difficile. Mais je n'ai pas besoin d'avoir peur puisque il me prépare, il m'a préparé pour vaincre les plus grandes tempêtes. Si Jésus est dans ma barque, que puis-je craindre? Que puis-je craindre? La seule chose qu'il faut m'éviter, c'est que l'eau rentre. Parce que sinon le bateau il coule. Mais si Jésus est dans la barque et que je le laisse diriger le gouvernail, alors que la tempête siffle, fait rage, Jésus est dans ma barque. Il peut chavirer, c'est vrai qu'il y a des tumultes, hein, on est bousculé des fois de tous les côtés. Il y a plein de choses qui viennent, mais ça ne veut pas dire que je vais couler. Et c'est ça, c'est que le bateau est fait pour rester au-dessus de l'eau. À nous de rester au-dessus, mais ça se fait dans ma relation personnelle avec Jésus. Ma relation avec lui, est-ce que j'ai encore autant ce désir d'être dans sa présence comme au début, quand je l'ai connu pour la première fois? Est-ce que je suis encore aussi amoureuse de lui? Hein? Quand on est amoureux, vous avez déjà vu des jeunes amoureux, partout ils sont, ils essaient d'être ensemble. Hein? Mais c'est vrai, c'est tellement beau à voir parce qu'eux, ils ne réalisent pas que tout le monde le voit. Mais c'est beau, parce que c'est là qu'on voit l'amour qui fait que, ils ont envie, même s'ils ne se sont rien dit pendant toute la soirée, mais le fait d'être ensemble. Aimez-vous être dans la présence de Dieu? Aimons-nous être dans cette... Et des fois, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il y avait quelqu'un, une histoire, c'était un des grands écrivains aussi chrétiens, je ne me rappelle plus du nom, mais qui disait, il passait beaucoup de temps, en plein milieu de la nuit, il se réveillait, il ne dormait pas beaucoup, et il passait du temps avec Jésus. Et il disait à Jésus, justement, sans demander de requête, mais juste disant, Jésus, je suis bien dans ta présence, j'aime être avec toi. Et un jour, il touche, il se dit, mais c'est mouillé. Et alors il dit, mais Jésus, tu pleures? Tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Et Jésus lui répondait dans le Saint-Esprit, ça fait tellement de bien d'avoir quelqu'un qui aime être dans ma présence. Savez-vous que c'est le désir de Dieu de nous avoir dans sa présence? Il nous a fait pour que nous soyons dans sa présence. Et aimez-vous être dans cette présence sans dire quoi que ce soit, juste dire, Jésus, j'aime être avec toi. Et on le sait, parmi les couples, ils n'ont même pas besoin de se dire des fois des choses, juste le regard, juste être dans... Ils savent qu'ils s'aiment et que ça fait du bien. Mais avec Dieu, il aimerait cette relation. Il aimerait cette relation. Et j'aimerais venir à mon dernier point, justement, pour vous dire que... Et je trouve celui-là extraordinaire, ce point, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est beau de voir comment Dieu utilise la nature pour nous parler. Un des autres points, un des plus forts, c'est partenariat. Nous avons besoin du partenariat. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Savez-vous qu'en Californie, il y a des arbres qui font plus de 300 mètres de hauteur. C'est énorme, c'est large. Et c'est, on appelle ça des Redwood of California. Ils sont énormes. Énormes. Et quand on sait que un palmier peut descendre à plus de 100 mètres ou plus de racines. Et on le voit dans les tempêtes, qu'est-ce qui se passe? Le palmier, il ne se brise pas, hein? Il fait ça et il rebondit. À cause de ses racines. Et nous savons que souvent un arbre, ses racines sont plus profondes que ce qui va à l'extérieur. Mais, the redwood, ils sont mais incroyables. C'est des géants, c'est les arbres les plus grands au monde. Mais regardez leurs racines qui font que 30 cm ou 3 mètres, des fois même pas. Voilà. Ça, c'est leurs racines. Alors imaginez-vous cet arbre énorme avec tellement, selon leur grandeur, petit leurs racines. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. Et vous savez, c'est ça la famille de Dieu. C'est que ces racines-là s'entrent lassent les uns aux autres. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. C'est ça. Ils vont en largeur comme ça. Ils ne vont pas en profondeur. Mais ils se tiennent les uns les autres. Et c'est ça l'Église. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous prendre les uns les autres. Alors j'aimerais peut-être juste deux personnes. Vous venez? Et quand vous allez sur YouTube, oui, venez ici, le YouTube, le ranger, donc ceux qui sont dans ces forêts, il raconte, il dit qu'il peut nous amener au milieu de la forêt où il y a des arbres qui sont morts, mais qui tiennent toujours. Tu me prends? Ouais. Alors voilà. Alors ce qui se passe, quand ces arbres, ils tombent, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris deux coups. Mais c'est ça, hein? C'est ça. C'est que aujourd'hui je prie pour toi. Demain tu pries pour moi. Demain je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ça ne va pas dans ta famille. Je prierai pour toi dans ta famille. Nous sommes là ensemble. Combattre ensemble. Merci. C'est ça la famille de Dieu. Ça c'est nous. Et j'aimerais vous encourager. Ne soyez pas trop fiers en disant, mais je n'ai pas besoin d'aller raconter mes problèmes à mon frère, ma sœur. On a besoin les uns des autres. Si vous voulez avoir une victoire, seul c'est difficile. Quand les plus grandes tempêtes, vous savez les tempêtes qu'il y a en Californie, quand les plus grandes tempêtes font ravage sur ces forêts, aucun arbre ne tombe. Pourquoi? Parce que la tempête ne combat pas un arbre, mais toute une forêt. Donc si l'ennemi commence à s'acharner sur nous. Si on est entouré par nos frères et sœurs, il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il va combattre toute une église. Et l'église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ l'église. Alléluia! Alors vous voyez combien ça vaut la peine de passer du temps avec la famille de Dieu, de partager les uns les autres, de prier les uns les autres. On a entendu des témoignages ce matin. Hein? C'était formidable, ces sœurs qui ont partagé sur la prière. Au lieu d'être centrées des fois que pour toi, mais de prier les uns les autres. de nous tenir et de savoir que la chose la plus importante, c'est que j'aime passer du temps avec mes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des loisirs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un sport qu'on aime ou des choses comme ça. Dieu ne nous a pas fait pour être des meubles dans une église. Non, mais c'est vrai, des fois, hein, on croit que... Non. Mais si les choses de l'extérieur commencent à prendre plus de temps, et on peut se dire, pendant 3 semaines, si je n'étais pas à l'église, ce n'est pas grave. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Parce que c'est comme ça que ça commence. Quand les choses du monde commencent à prendre plus de temps dans nos vies, alors que la famille de Dieu est là pour qu'il y ait la plénitude de Christ dans ma vie, là, nous commençons à avoir un problème. Faisons attention à nos temps de loisirs. Faisons attention, parce que c'est des choses qui peuvent prendre très vite une autre proportion dans nos vies. Et nous avons besoin, ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, mais il y a sa place. Il y a sa place. Et Dieu, nous, comme je disais, c'est nous, notre corps qui transporte l'esprit. Donc si on n'en prend pas soin, si je mange du n'importe quoi, ça va affecter mon corps. Vous êtes d'accord? Et c'est là où il faut veiller. Hein, on croit des fois, non, si on mange tout le temps trop gras ou trop sucré, très vite, on a des problèmes de santé. Donc, de quoi est-ce qu'on se nourrit? Hein, et c'est là la parole de Dieu. Plus je me nourris de la parole de Dieu, plus je passe du temps dans la communion avec le Seigneur, plus je passe du temps avec mes frères et sœurs et j'ai du plaisir à être avec eux et à ne pas être trop orgueilleux pour leur dire, écoute, est-ce que tu peux prier pour moi? Là, j'ai un besoin. Vous savez, des fois, on n'ose pas, hein? On se dit « oh hein? ». On vit dans une culture de nos jours, chacun pour soi. Là. Ça va, il n'y a pas de souci. Dimanche matin, comment ça va? Ça va. Et pourtant, des fois, à l'intérieur, on dit « non, ça ne va pas du tout ». Au lieu de dire « on n'a pas besoin toujours de tout décrire hein? ». Il faut faire attention aussi des fois. Des fois, je dis « non, ça ne va pas aujourd'hui, c'est très dur, mais est-ce que tu pourrais juste prier pour moi ?» J'ai des moments difficiles là, je ne m'en sors pas et j'ai besoin là que tu pries. Et souvent si on est sensible au Saint-Esprit, le Seigneur commence à nous montrer des choses et il commence à prier des prières efficaces parce qu'on est en communion avec lui. Et c'est ça, plus de temps je passe avec le Seigneur, plus je deviens sensible au Saint-Esprit. Et je commence à sentir ce qui se passe. Et des fois, quand on est dans une église, comme il disait le frère ce matin, le pasteur, de regarder, dire, de prier pour une personne et de la suivre. Et puis après, hein, parce que des fois, on se dit, mais moi, je ne sais pas qui m'ont aidé. Mais des fois, le Seigneur nous met à cœur une personne. Eh bien, on y va, ma soeur, mon frère, j'aimerais prier pour toi ce matin. Est-ce que ça va? Ça te dérange? Oh ben oui, moi, j'aime toujours recevoir de la prière. Hein? Mais... de nous ouvrir, on a besoin de résister. Vous n'arriverez pas à combattre tout seul. Vous n'arriverez pas. Même si Dieu nous a équipés pour les tempêtes, mais on a besoin de se consolider. Et c'est ça l'image justement de ces racines, les uns les autres, de dire je te tiens, aujourd'hui je prie pour toi, demain tu pries pour mon mariage, pour mes enfants, pour tout ce qui se passe à la maison, pour mon travail, pour ma santé, pour mes manquements, pour mes péchés, pour mes rechutes, de dire j'ai besoin, vous savez, je suis faible, je n'y arrive pas, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Peux-tu me tenir? Peux-tu être là avec moi pour que je ne combatte pas ça tout seul? On a besoin de ça, on a besoin des frères et sœurs.